On va reparler de la situation des prisons en retrouvant la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, et la présidente de l'Observatoire international des prisons, Delphine Boezel. Vers 8h30, nous rendrons hommage à l'anthropologue Françoise Héritier qui a disparu hier. Nous serons en ligne avec l'historienne Michèle Perrault. Vers 8h50, nous tenterons une conclusion définitive au sujet de l'art officiel grâce à Aurélien Bélanger. Une nouvelle série sur Arte avec Mathilde Serrel. Cette nouvelle série s'intitule Transfert, et puis le billet politique de Frédéric Saïs, bien sûr. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Emmanuel Macron souhaitait échapper aux querelles identitaires. Va-t-il y parvenir ?
Serait-elle en train de le rattraper ? C'est ce qu'on va voir.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
8h17 sur France Culture. Le billet politique de Frédéric Saïs.
Bonjour. C'est maintenant, bonjour, rebonjour.
Frédéric, une assemblée nationale en ébullition hier après-midi. Emmanuel Macron est dans le chaudron identitaire.
Oui, bien loin des premiers temps du quinquennat où cet hémicycle ressemblait à un sage colloque d'experts comptables. Hier, lors des questions au gouvernement, les tensions se sont focalisées autour de ces thèmes identitaires. C'est d'abord la France insoumise qui a quitté les bancs pour protester contre une question jugée infamante du député UDI Meyer Habib sur le détenu franco-palestinien Salah Hamouri. Quelques instants plus tard, la tension est encore montée d'un cran à l'occasion d'une question sur les prières de rue à Clichy-la-Garenne, question de Gilbert Collard, proche de Marine Le Pen.
Et qu'il s'agisse de prières musulmanes, peu m'importe. Il s'agirait de prières bouddhistes ou zoroastries, ce serait pareil. C'est à proprement parler absolument intolérable.
Et le venin de la division gagne l'Assemblée, on perçoit le malaise sur les bancs. Face à cela, Gérard Collomb dégaine l'antidote macroniste, ses ingrédients, un peu de nuance, une évocation de tort partagé, un appel à la conciliation avec la phrase magique et en même temps.
J'ai donc demandé au préfet de prendre contact avec à la fois les élus de Clichy-la-Garenne et en même temps avec la communauté musulmane afin que le problème soit résolu. Il ne peut pas y avoir de prière de rue, mais en même temps, il convient que les musulmans de Clichy-la-Garenne puissent avoir un lieu de culte décent, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer le culte de son choix, pourvu que ce soit dans le respect de l'ordre républicain. C'est ce que veut faire ce gouvernement.
Exploit de cette rhétorique, Gérard Collomb est applaudi à la fois par Gérard Collard au FN et par Daniel Obono à la France Insoumise qui avait entre-temps regagné sa place, sans parler de la majorité évidemment qui elle est debout. Le ministre de l'Intérieur donne l'impression d'avoir fait baisser la température du chaudron en remuant un peu, mais pour combien de temps ? Plus globalement, les questions identitaires semblent revenir au premier plan alors qu'Emmanuel Macron avait tenté de les mettre de côté, rembobinant quelques instants la vie politique. L'identité fut un thème à chaque fois plus central dans les campagnes présidentielles depuis 2002, mais la dernière, celle de 2017, a plutôt marqué un reflux. Emmanuel Macron, qui a fait la course en tête, a décidé de ne pas sacraliser cette thématique et même pour une bonne part de l'ignorer. Sa campagne s'est centrée sur les questions économiques, sociales, domaine dans lequel son programme était le plus rempli. Pour le reste, une sorte de statu quo. Les rares fois où la question identitaire a été abordée par le candidat, c'était avec nuance, balancement, fermeté et en même temps bienveillance. Nuance et parfois un certain flou, il faut le dire, qui présentait l'avantage de ne pas offrir vraiment de prise idéologique à ses adversaires. Cela s'est d'ailleurs poursuivi en ce début de quinquennat. L'action du gouvernement et son discours se sont concentrés sur les réformes économiques, les premiers de cordée et autres flat tax.
Et Emmanuel Macron tente de maintenir cette ligne, Frédéric.
Oui, loin de cette atmosphère étouffante de l'Assemblée nationale, la veille, le chef de l'État avait livré ses propositions pour la politique de la ville. Pas de coup de menton, pas d'appel à la répression tous azimuts. Un discours pondéré qui, en certains moments, rappelait Lionel Jospin. Le président reprend d'ailleurs la fameuse expression jospinienne du sentiment d'insécurité.
Cette police de sécurité du quotidien, c'est celle qui répond justement au sentiment d'insécurité et à la réalité connue par nos concitoyens. Depuis la disparition de la police de proximité, nous avions perdu cette capacité d'avoir une autre forme de présence policière.
Et quant à la radicalisation, dite Emmanuel Macron, elle est aussi liée au renoncement de la République.
Cette radicalisation, elle s'est installée parce que la République a démissionné. Et parce que nous avons laissé, dans de trop nombreuses communes, dans de trop nombreux quartiers, des représentants d'une religion transfigurés, déformés, qui portent la haine et le repli, apporter les solutions que la République n'apportait plus.
Un discours posé, naïf, diront ses adversaires, mais une stratégie assumée, comme si dans la start-up France, la question n'était pas qui sommes-nous, mais où allons-nous ? Le pari d'Emmanuel Macron est le suivant. Insister sur les divisions, cela met de l'huile sur le feu et pas dans les rouages. La société bloquée, fracturée, n'a pas besoin qu'on lui tende un miroir, elle prendrait peur. À mi-chemin entre la méthode couée et l'ardeur managériale, ce discours laisse de côté la réalité du clivage identitaire avec l'idée qu'en parler, c'est le faire exister, qu'éructer, c'est le renforcer. Le pari n'est pas dénué de fondement. Après tout, les rodomontades politiques sur ces questions identitaires n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité ces 10 dernières années. Mais combien de temps ce pari peut-il tenir avant que la réalité des divisions ne vienne s'immiscer de force dans les discours polis et polissés ?
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Il est 8h22 sur France Culture.
Les matins de France Culture.
Et nous, on revient à notre question prison. Pourquoi la France fait peine à voir, surpopulation carcérale, vétusteté des établissements pénitentiaires? Nous en avons parlé en votre compagnie, Delphine Boezel. Vous êtes présidente de l'Observatoire international des prisons, ainsi qu'en votre compagnie également, Adeline Hazan. Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Passons maintenant aux solutions. Qu'est-ce que l'on peut imaginer concrètement face à cette situation? Emmanuel Macron a promis la création de 15 000 places de prison. Est-ce une solution?
Clairement non. D'ailleurs, ce qui était très intéressant dans l'audition du président de la République devant la Cour européenne des droits de l'homme le 31 octobre, c'est que lui-même a dit ce que moi personnellement je dis depuis plusieurs années, c'est que plus on construira de places de prison, plus elles seront remplies. Car c'est cela que nous observons, puisque on l'a dit et je le redis, en 25 ans, on a doublé le nombre de places de prison et la surpopulation carcérale n'a jamais été aussi importante. Donc d'un côté, Emmanuel Macron dit plus on construira de prison, plus de places de prison, pardon, plus on les remplira. Mais de l'autre côté, il annonce un projet de 15 000 places de prison dont on sait que ça n'est pas la solution. Moi, je pense qu'il y a tout un éventail de solutions. D'abord, il faudrait réfléchir vraiment à ce que c'est que ces courtes peines. Delphine Boezel le disait tout à l'heure, plus de 20 000 personnes qui sont là pour des peines de moins d'un an. Souvent, d'ailleurs, elles sont là pour 2 ou 3 mois. La question qui doit se poser et que la chancellerie doit se poser, c'est quelle est l'utilité de ces très courtes peines? Elles ne font finalement que désinsérer davantage des personnes et elles ne permettent absolument pas, ni à ces personnes, ni à la société finalement, d'en tirer un bénéfice. Donc c'est à cela qu'il faut, à mon avis, mettre un terme, en tout cas dans toute la mesure du possible, et puis développer toutes ces alternatives, ces contraintes pénales, ces sursis mis à l'épreuve qui existent mais qui ne sont pas suffisamment prononcées. Et quand on voit finalement que d'un côté le président de la République dit cela, mais de l'autre côté, effectivement, les députés votent des lois qui sont de plus en plus répressives. On se dit, où est la cohérence de la politique nationale?
Il y a les courtes peines, il y a aussi les personnes en attente de jugement. Là, est-ce que cela compte de manière importante, Delphine Boezel?
Ah oui, puisque ça représente quasiment un tiers des personnes détenues actuellement. On a 20 000 personnes.
Et comment expliquer cela? Est-ce que c'est une spécificité française? Parce que c'est tout de même assez incroyable.
Ça, c'est là encore aussi de la responsabilité des magistrats qui, finalement, placent en détention, dans le cadre soit d'instruction judiciaire, soit en attente de jugement, des personnes qui pourraient bénéficier d'un placement sous surveillance électronique en attendant l'audience. Ou d'autres solutions. Après, ce qui est compliqué, c'est que souvent, ce sont aussi des personnes, on le disait tout à l'heure, qui sont extrêmement désinsérées, qui n'ont pas forcément d'hébergement pour justement avoir un bracelet électronique à leur domicile. Et c'est toute la question aussi de qui commet les infractions et comment on va, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes très jeunes, des personnes peu insérées, des personnes qui n'ont pas de travail parce que les magistrats focalisent sur le travail en disant, enfin sur l'hébergement et sur le travail. Enfin voilà, c'est-à-dire que pour éviter de mettre en prison, il faut pouvoir déjà justifier qu'on est inséré. Et encore, des fois, ça ne suffit pas, mais il faut pouvoir justifier qu'on est inséré. Et dans une situation économique, enfin de précarité économique telle qu'on connaît actuellement. Donc c'est cela aussi, c'est que c'est finalement beaucoup plus global que simplement la justice, ça va bien au-delà, ça va sur le travail, ça va sur les formations, sur C'est une vraie situation générale de notre pays et de difficultés sociales que rencontrent les personnes qui commettent aussi les infractions.
Donc c'est une forme de double peine, Adeline Hazan.
Oui, c'est une forme de double peine, et je crois que ce qu'il faut dire également, c'est que au-delà de la surpopulation carcérale, et peut-être d'ailleurs également une conséquence, mais en prison, les détenus ne travaillent pas suffisamment. Ils demandent quasiment tous à travailler. Il y en a à peu près un tiers seulement qui y arrive. Les détenus sont très mal soignés. On s'aperçoit et on constate, nous, dans les 150 visites que nous effectuons tous les par an, que pour avoir un examen médical, pour avoir une opération, pour avoir des soins, même pour des maladies graves comme un cancer, eh bien, très souvent, les détenus sont obligés d'attendre des mois pour avoir des activités. Et ils sont obligés d'attendre des mois. Donc il y a tout aussi, il y a la question de la surpopulation, mais il y a aussi la façon dont la peine se déroule, c'est-à-dire avec aucun des facteurs qui permettrait non seulement de faire en sorte que cette période soit plus positive, mais en même temps qu'elle serve à quelque chose pour la réinsertion des détenus, qu'ils en sortent un peu moins désinsérés qu'ils n'y sont rentrés.
Avec un autre chiffre que j'ai trouvé complètement stupéfiant, Adeline Hazan, et la question donc des détenus atteints de pathologies psychiatriques, puisque vous parliez des soins, donc juste pour le rappeler, il y a 70 000 détenus environ en France, et j'ai lu que 17 000 détenus devraient recevoir des soins en matière donc de psychiatrie, d'accompagnement psychologique, c'est
oui,
ça ?
Oui, on n'a pas de chiffres très précis, parce qu'aucune étude n'a été faite depuis plus de 10 ans, mais grosso modo, ce qu'on sait, c'est qu'entre 20 et 30%, plutôt vers 30% des détenus sont atteints de troubles mentaux, qu'il s'agisse de troubles mentaux comme des troubles anxio-dépressifs, mais aussi qu'il s'agisse de pathologies graves, comme par exemple des schizophrénies. Donc on peut se demander à quoi sert de mettre en prison quelqu'un qui est atteint de schizophrénie.
Mais alors, est-ce que c'est consécutif à l'enfermement, ces troubles psychiatriques? Pas la schizophrénie, puisque là, ça relève évidemment d'autres causes. Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces détenus, parce que 20 à 30%, c'est un chiffre absolument énorme, est-ce que c'est lié aux conditions de détention ou est-ce que c'est peut-être la cause
de... Je dirais les deux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles le choc carcéral va créer un état anxio-dépressif extrêmement important, surtout sur les très jeunes. Et j'en profite pour dire qu'il y a de plus en plus de mineurs en prison. On est à 850 mineurs en prison. Et puis, il y a des personnes qui arrivent déjà avec des pathologies et qui seront forcément aggravées par le séjour en prison.
Delphine Boezel.
Ce sont des personnes, les personnes incarcérées sont quand même font partie des personnes les plus fragilisées aussi de notre société, et les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou psychologiques, enfin troubles, font partie. Mais il est évident que ensuite la détention et les conditions de détention aggravent des situations déjà existantes, tant d'un point de vue psychologique ou psychiatrique que d'un point de vue somatique aussi. Hein, on a le développement de pathologies physiques en détention du fait de cette surpopulation, de cette à Fresnes, hein, on a pu établir qu'on a des personnes détenues qui présentent du fait des punaises de lit, du fait des boutons un peu partout sur le corps qui se grattent constamment, et ça c'est une grande majorité de la population à la maison d'arrêt de Fresnes.
On écoute d'ailleurs le témoignage deux détenues suite à l'ouverture d'unités de vie familiale à la prison de Rennes.
Quand je passe 48 heures ou 24 heures, je suis carrément ailleurs. Et quand c'est l'heure de rentrer au CD, là je suis carrément perdue. Je dis waouh, j'ai passé 3-4 jours à l'extérieur. Pour moi personnellement, c'est une semi-perte, je vais dire.
Ça nous permet de nous retrouver dans l'intimité, dans tous les sens du terme, quand je parle intimité, ça va du simple café ou à la douche. Hein, c'est des choses qu'on ne vit pas depuis X années. Puis là, d'un coup, on a l'opportunité de pouvoir partager un semblant de vie normale.
On entend le témoignage de cette détenue Adeline Hazan, vous qui êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. On l'a dit tout à l'heure, ces questions-là, elles ne sont pas très payantes électoralement. Est-ce que ce type de mesures qui semblent porter leurs fruits dans l'amélioration de la vie des détenus, est-ce que ce type de mesures est porté, sont portées politiquement?
Pas assez. Précisément, les unités de vie familiale, ce qu'on vient d'entendre, qui est une mesure extrêmement positive, ça devrait exister dans toutes les prisons. Malheureusement, ça n'existe pas du tout dans toutes les prisons. Et quand ça existe, parfois faute de moyens, j'ai même vu par exemple une prison où l'unité de vie familiale existait, mais faute de personnel, elle ne pouvait pas être utilisée. Donc là, c'est absolument invraisemblable. Donc ce sont exactement ce type de mesures qui doivent être développées, parce que le droit au maintien des liens familiaux, c'est un droit absolu. C'est un droit absolu, et puis ça permet évidemment à une famille de ne pas couper les ponts avec ses enfants, et donc là aussi de préserver ce qui va pouvoir être préservé à l'extérieur ensuite.
Delphine Boezel.
Oui, sur la question de savoir si c'est porteur politiquement ou non, on nous ment de toute façon sur la question de la prison, parce que c'est un échec. Là actuellement, tel que nous connaissons la prison, les personnes qui sortent de détention en sortie sèche vont récidiver plus facilement que des personnes qui auront une alternative. Et donc on crée de l'insécurité en réalité. On crée de l'insécurité lorsqu'on ne s'occupe pas des personnes qui sont à l'intérieur, par ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que il y a un temps d'oisiveté important, peu d'activité. Le Conseil de l'Europe nous dit qu'il faudrait 8 heures d'activité, en tous les cas 8 heures en dehors de la cellule. Actuellement, dans les maisons d'arrêt surpeuplées, ils sont 1 heure à 1 heure et demie en dehors de la cellule. Vous avez des gens qui restent 23 heures sur 24, voire certains qui ne sortent même pas en promenade, c'est 24 heures sur 24. Et c'est un discours mensonger, en ce que on sait ce qu'il faudrait faire. On sait qu'il faudrait mettre plus d'argent dans les alternatives, qu'il faudrait mettre plus d'argent dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont aussi ces personnes qui accompagne les détenus à l'intérieur ou à l'extérieur. On ne le fait pas, on nous parle de construction de prison, simplement pour avoir ce côté et dire on ne répond pas à cette action laxiste, en fait, où on a peur d'être traité de laxiste, alors même qu'on met en danger actuellement du fait de cette politique qui est... à continuer finalement sur la faillite et sur l'échec du système pénitentiaire.
Est-ce qu'il y a des pays, Adeline Hazan, où la situation des prisons s'est améliorée parce que le politique s'en était emparé sans conséquences électorales graves?
Oui, particulièrement les pays du nord de l'Europe, comme la Suède, la Norvège, également les Pays-Bas, où on a réussi par des politiques d'alternatives développées.
Que c'est surtout là-dessus quand même que
bien
vous
sûr,
assistez.
C'est là-dessus qu'il faut jouer. On a réussi à faire baisser sensiblement, par des volontés politiques, le nombre de détenus incarcérés. Puis il y a eu des pays qui ont été obligés de le faire, comme l'Italie, je le disais tout à l'heure, qui a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été obligée, par là aussi, le développement massif d'alternatives à l'incarcération, à faire baisser le nombre de détenus. C'est bien la raison pour laquelle je crois qu'on est un certain nombre de personnes, et c'est triste de le dire, à finalement souhaiter qu'on en vienne à une condamnation de la France pour que la France soit obligée de prendre des mesures drastiques.
Enfin, on imagine la situation dans laquelle devaient être les prisons italiennes pour qu'elles soient condamnées, puisque la France, semble-t-il, n'est pas encore...
La même situation que la France actuellement.
Mais alors pourquoi la France ne l'est-elle pas déjà?
C'est en cours.
On l'espère.
J'avais bon espoir.
On a bon espoir. Je voudrais juste rajouter, on promeut les alternatives et les aménagements de peine, ce ne sont pas des mesures de faveur, ça reste une peine, c'est une manière d'exécuter différemment la peine. Et c'est des contraintes pour les personnes qui y sont soumises. Et c'est important de le répéter, c'est sûr qu'elles ne sont pas enfermées, privées de leur liberté. Mais quoique, quand vous avez un bracelet électronique et qu'il faut que vous soyez finalement votre propre gardien de prison parce qu'il faut rentrer à l'heure, ça reste des mesures extrêmement contraignantes et qui sont donc considérées comme des peines, mais qui auront un avantage de pouvoir continuer la socialisation, de pouvoir continuer un travail, de pouvoir rester près de ses proches et d'être mieux accepté par la personne qui l'a subi, pour pouvoir par la suite ne plus commettre d'infractions.
Merci Delphine Boezel, vous êtes présidente de l'Observatoire international des prisons, de nous avoir décrit cette situation donc au cœur des prisons françaises. Une situation un peu désespérante, vous étiez d'accord sur ce constat, Adeline Hazan, vous qui êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté.